maintenant donc à la présentation de notre conférencier de ce soir, Michel Morange, qui est biologiste moléculaire et historien des sciences à l'ENS de la rue d'Ulm et à l'Université Paris 6. Il est né en 1950. Il est professeur de biologie, directeur du Centre Cavaillès d'histoire et de philosophie des sciences de l'ENS. Quelques dates pour son parcours. En 1978, il a une thèse d'enzymologie à l'Institut Pasteur et une thèse de troisième cycle en philosophie portant sur l'histoire et l'épistémologie de la biologie moléculaire sous la direction du professeur Jacques Merleau-Ponty. Quelques mots sur ses spécialités. Il a maintenu une double activité scientifique, biologie moléculaire et cellulaire, biologie du développement, historique et philosophique. Dans ces derniers domaines, sa recherche porte sur les transformations des sciences du vivant au XXe siècle, histoire de la biologie moléculaire, caractéristique particulière de l'École française de biologie moléculaire. Ses travaux les plus récents portent sur les avatars de la question « qu'est-ce que la vie ?», la signification exacte de la post-génomique et les difficultés de l'interdisciplinarité en biologie. Quelques repères bibliographiques. Michel Morange a écrit de nombreux articles donc dans des revues nationales et internationales, mais il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire de la biologie. Donc je citerai le dernier qui est « À quoi sert l'histoire des sciences ?» aux éditions Quae, paru en 2008. Voilà, donc je lui cède la parole pour une petite heure, et après quoi nous aurons donc des questions avec le public. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour cette introduction. Je vais peut-être commencer par expliciter mon titre, L'homme et le singe. Entre l'homme et le singe, le chimpanzé, on observe un certain nombre de différences que l'on pourrait qualifier d'évidentes. La station debout chez l'être humain, la forme du visage avec une mâchoire plus réduite, un cerveau de plus grande taille, et au sein de ce cerveau, des modifications de structures particulières, le lobe préfrontal, donc la partie antérieure du cerveau. On observe aussi, évidemment, des modifications importantes au niveau du comportement, ne mentionnons que le langage qui est très développé dans l'espèce humaine. Mon objectif ne sera pas de revenir sur ces différences. D'autres que moi seraient beaucoup plus spécialistes pour parler de ces différences, en particulier des éthologues qui s'intéressent au comportement des animaux, des spécialistes de linguistique qui nous diront en quoi le langage humain est très différent des formes de langage plus primitives qu'on peut observer dans le monde animal. Mon objectif est d'essayer de voir ce que peut nous apporter la connaissance des génomes et la comparaison des génomes à la compréhension de l'évolution humaine et donc des différences qui sont apparues au cours de ces 6 derniers millions d'années et qui font qu'aujourd'hui l'être humain est très différent du chimpanzé. Que nous disent les génomes? En fait, on peut utiliser la connaissance de la génétique et la génomique avec deux objectifs différents. Le premier, c'est d'utiliser la génétique et la génomique comme source de marqueurs. Et ici, vous avez une étude qui a été réalisée récemment en caractérisant l'ADN d'ossements qui ont été trouvés ici en Sibérie du Sud. Il a été possible de montrer que ces ossements appartenaient à l'espèce de Néandertal. Donc on avait des restes humains dont la nature n'était pas tout à fait claire. Il y avait bien une ressemblance avec l'homme de Néandertal, mais ce n'était pas évident que c'était l'homme de Néandertal, parce que jusqu'alors, on avait décrit l'homme de Néandertal seulement en Europe plus occidentale. En caractérisant ces restes humains, en extrayant l'ADN, il a été possible de montrer que cet ADN, effectivement, appartenait à l'espèce Néandertal. Donc voilà aussi une possibilité d'utiliser l'information génétique et génomique, cette fois pour séparer, identifier, par exemple, des restes fossiles humains. C'est un peu le même usage qu'on fait couramment aujourd'hui avec la technique d'amplification de l'ADN ou PCR, quand il s'agit d'identifier des traces laissées par exemple, un criminel. Mais l'usage dont je voudrais parler de la génomique aujourd'hui est un usage différent. Il s'agit d'aller plus loin et d'essayer, en quelque sorte, de répondre à ces questions qui sont, ou essayer de voir la valeur qu'il faut prêter à ces phrases que j'ai trouvées dans des titres de journaux, et j'aurais pu allonger la liste, on trouve beaucoup d'articles de ce type-là. Donc un seul gène a conduit à l'espèce humaine, le gène qui nous donne un plus gros cerveau, les gènes qui qui nous rendent plus intelligents que les chimpanzés. Que faut-il penser exactement de ces phrases, de leur signification? En réalité, je vais essayer de développer, de faire passer le message suivant, qui est que nous tous, scientifiques, non scientifiques, nous avons une vision, en quelque sorte naïve, des variations génétiques qui ont été à l'origine de l'homme moderne. Et ce que je voudrais essayer de vous montrer, c'est que les résultats de la génomique, les résultats récents de la génomique et de la post-génomique, je décrirai un peu de quoi il s'agit, nous obligent à corriger cette vision un petit peu naïve. Alors, je vais me servir pendant cet exposé d'informations que vous avez déjà eues dans les conférences précédentes, à la fois qui vous ont décrit donc les méthodes qu'on utilise pour caractériser les génomes, pour les séquencer, pour les comparer. Je voudrais insister sur un point qui, je pense, n'a pas dû être beaucoup développé. Les variations que l'on observe au cours de l'évolution sont dues à des mutations, des variations au niveau des gènes. Je vais me focaliser pour l'instant juste sur les variations dites ponctuelles. Donc dans l'ADN, on observe la substitution d'un des éléments de l'ADN, un nucléotide, par un autre nucléotide. Ce type de substitution peut avoir trois conséquences. La première, c'est qu'il peut être neutre, c'est-à-dire qu'il peut conduire à un phénotype qui n'est pas du tout différent du phénotype antérieur, donc de l'aspect physique, morphologique, physiologique de l'organisme, ou quasi neutre, c'est-à-dire qu'il y a une différence mais qui au fond n'a pas de valeur. Une mutation peut avoir des effets dits positifs, c'est-à-dire qu'elle va conférer à l'organisme qui va la porter un certain avantage dans un environnement donné. Et là, on va avoir ce qu'on appelle une pression de sélection positive qui va tendre à faire que cette variation va petit à petit envahir la population. Et puis, il peut y avoir, au contraire, des pressions de sélection dites négatives qui, face à une mutation qui a au contraire des effets néfastes, délétères, va avoir tendance à faire disparaître cette mutation. Donc on peut parler de pression de sélection positive, négative ou d'absence de pression de sélection, et c'est dans le cas des mutations neutres. Il existe, quand on regarde des génomes et que l'on compare des génomes, des méthodes qui permettent de savoir si les variations qu'on observe entre deux espèces ont été positives, négatives ou au contraire neutres. Il y a deux méthodes essentiellement qui sont utilisées par les biologistes. La première repose sur ce qu'on appelle la dégénérescence du code. Donc le fait que le code génétique, vous avez plusieurs, vous savez, une règle de correspondance entre les nucléotides et les acides aminés qui constituent les protéines, mais le code est dégénéré, c'est-à-dire que plusieurs triplés de nucléotides peuvent permettre la synthèse du même acide aminé. Donc quand on a une mutation dans une protéine, dans un gène qui code pour une protéine, cette mutation n'a pas forcément d'effet sur la séquence de la protéine et donc peut n'avoir aucun effet sur l'organisme. On appelle ça des mutations synonymes. Au contraire, certaines mutations peuvent changer la nature de l'acide aminé. On appelle ça des mutations non synonymes. Eh bien, cette comparaison, donc la fréquence des mutations synonymes et non synonymes, peut être estimée. Si la mutation est neutre, on trouve qu'il y a un rapport entre mutations synonymes et non synonymes qui est en réalité proportionnel au nombre de variations qui peuvent donner des transformations synonymes et non synonymes. S'il y a une pression de sélection positive, on va observer que les mutations qui changent les acides aminés sont intervenues plus souvent que les mutations qui ne changent pas les acides aminés. Si au contraire, on a une pression de sélection négative qui empêche les changements, qui fait que les changements sont rejetés. On a l'inverse, c'est-à-dire qu'on a un taux de mutation synonyme qui est plus grand que le taux de mutation non synonyme. Il ne s'agit pas là de donner des détails, simplement pour vous dire qu'il y a des méthodes qui permettent, quand on compare les génomes, de dire tel gène a subi une pression de sélection positive, c'est-à-dire a dû conférer un avantage aux organismes qui le portent, ou au contraire, telle variation qui est intervenue, elle, au contraire, était une variation neutre ou même a pu avoir un effet négatif. Il existe, comme je vous ai dit, deux méthodes. La deuxième méthode, elle, repose sur le fait que quand vous avez une mutation qui est bénéfique, les individus qui la portent vont avoir tendance à transmettre plus leur gène. Et ils vont transmettre non seulement la mutation bénéfique, mais ils vont transmettre aussi le génome avoisinant cette mutation. Et dans ce cas-là, on observe donc qu'il y a une sorte d'appauvrissement des variations génétiques qui existent dans toutes les populations animales ou humaines, au voisinage de la mutation qui a été sélectionnée positivement. C'est une deuxième méthode qui permet aussi de mettre en évidence ce qu'on appelle une sélection positive, c'est-à-dire l'idée que la variation qui est intervenue a eu un effet bénéfique à favoriser la reproduction de l'organisme qui l'a porté. Les deux méthodes ne couvrent pas des périodes de temps identiques. La première méthode permet de couvrir des périodes longues. La deuxième méthode est plus adaptée à des changements relativement récents. Bien, ceci c'était simplement pour vous donner un peu les méthodologies qui vont apporter les résultats que je vais décrire ensuite. Alors, ceci étant donc introduit, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais décomposer cet exposé en trois parties. Le premier, je vais vous parler d'un certain nombre de gènes qu'on appelle des gènes candidats, c'est-à-dire des gènes pour lesquels on a de bonnes raisons de penser que leur variation a pu être importante pour l'évolution de l'être humain, pour la formation de l'être humain. Ensuite, on verra qu'il y a d'autres méthodes qui sont dites systémiques ou post-génomiques, qui sont des méthodes qui, cette fois, ne vont pas se focaliser sur un gène, mais essayer de considérer l'ensemble des gènes. Et puis enfin, je tirerai des résultats apportés par ces différentes méthodes quelques conclusions scientifiques et, comme vous le verrez, philosophiques. Première partie donc, les gènes candidats. Alors, qu'est-ce que sont les gènes candidats? Donc, que sont ces gènes que les biologistes regardent avec attention parce qu'ils pensent qu'ils ont pu être importants pour l'évolution humaine? Qu'est-ce qui fait qu'un gène est un bon candidat? Il y a plusieurs critères. Le premier, c'est que des mutations dans ces gènes peuvent avoir un effet important, et en particulier un effet qui touche des structures importantes chez l'être humain. Vous allez voir des exemples, mais disons tout de suite, une mutation qui altère le développement du système nerveux, et en particulier, par exemple, des lobes préfrontaux, va être le gène qui est donc muté dans ce cas-là, va être considéré comme un bon gène candidat pour éventuellement avoir varié pendant la formation de l'homme moderne. Donc ces mutations qu'on observe sont des défauts en général, mais néanmoins on peut penser que le gène qui est touché par ces mutations a dû lui-même jouer un rôle important dans l'évolution humaine. Un deuxième critère pour être un bon gène candidat, c'est d'avoir ce qu'on appelle un bon profil d'expression. Si vous avez un gène qui est exprimé, par exemple, dans le cerveau, dans, par exemple, les aires du cerveau qui sont impliquées dans le langage ou dans les lobes préfrontaux, à nouveau qui sont la structure qui a le plus évolué entre les primates et l'homme moderne, évidemment, un tel gène est plus intéressant qu'un gène qui serait exprimé au niveau du foie ou au niveau de l'estomac, parce que là, on ne pense pas qu'il y ait eu de différence majeure avec les autres simiens. Ensuite, évidemment, un argument supplémentaire peut être que le gène considéré a subi des mutations, des variations, au cours de la formation de l'espèce humaine, de l'être humain moderne. Et puis, comme je vous l'ai dit, un dernier critère peut être le fait qu'on arrive à mettre en évidence que les variations qui sont donc produites dans ce gène ont été correspondu à une pression de sélection positive, c'est-à-dire que les individus qui portaient cette variation ont eu un avantage sélectif. C'est d'ailleurs ce dernier cas qui permet d'appeler ces variations les smoking guns en anglais. On les désigne ainsi, ça veut dire les fusils fumants. C'est-à-dire quand quelqu'un vient de tirer avec un fusil, si on veut savoir qui c'est qui a tiré avec le fusil, celui dont le fusil fume encore, évidemment, risque d'être le coupable. Eh bien là, c'est un peu la même chose. Un gène qui a varié et dont on peut montrer qu'il a subi une pression de sélection positive, évidemment, c'est un bon gène pour être un gène dont les variations ont participé à l'évolution récente ici de l'espèce humaine. Alors, quels sont les exemples que je vais prendre? Comme vous voyez, je vais prendre 5 exemples différents, parce que chacun a son intérêt et montre aussi, quelquefois, ce qu'on attendait, les déceptions qu'on a pu observer, puis en même temps, les enseignements très riches qui, finalement, une fois ces déceptions surmontées, sont apportées par ces études. Le premier gène qui a été étudié est le gène MYH16. C'est un gène dont la fonction est de permettre la fabrication d'une protéine exprimée dans les muscles. Mais ces protéines qui sont essentielles, qui participent à la contraction musculaire, c'est une famille de gènes. Et ce gène particulier, MYH16, il est exprimé dans les mâchoires. Or, il y a quelques années, un groupe a montré que dans l'espèce humaine, ce gène avait subi une mutation qui l'avait inactivé, qui avait bloqué l'expression de la protéine, tronqué l'expression de la protéine et l'avait inactivé. Alors pourquoi une telle observation est intéressante? Parce que si l'on compare l'être humain aux singes les plus proches de lui, une des différences majeures est, dans l'espèce humaine, la petite taille de la mâchoire, en particulier de la mâchoire inférieure. Ensuite, quand on a donc fait les études que je vous décrivais précédemment et regardé plus précisément quand était intervenue cette mutation, on a pu montrer, ceci est représenté sur ce schéma, que cette mutation inactivante était intervenue dans le rameau humain il y a environ 2,4 millions d'années. Et vous avez des détails sur cette image que je ne voudrais pas entrer dans le détail. Mais c'était une mutation qui inactivait le gène. Comme elle a inactivé le gène, à partir du moment où le gène a été inactivé, n'a plus donné une protéine fonctionnelle, il a échappé à la sélection naturelle. Et donc, comme il a échappé à la sélection naturelle, toutes les variations qui se produisaient étaient évidemment neutres, puisque le gène n'était plus exprimé. En calculant donc à quel moment étaient intervenues les mutations neutres, il a été possible de cette manière de savoir quand le gène a été inactivé. De 4 millions d'années, vous le savez, on est dans l'évolution spécifiquement humaine, puisque la séparation avec le chimpanzé a dû intervenir entre 6 et 7 millions d'années à peu près. Les auteurs de ces travaux ont tiré donc les conclusions, une sorte de scénario évolutif. Il y a donc 2-4 millions d'années, une mutation inactive le gène pour cette protéine. Cette mutation fait que les muscles de la mâchoire vont fondre, puisqu'effectivement, la protéine qui en assurait la fonction est inactivée. En fondant, ces muscles vont faire que la mâchoire a une taille beaucoup plus petite, ce qui, au niveau de la tête, va permettre de libérer, en quelque sorte, la croissance de la boîte crânienne et, selon les auteurs, permettait d'amorcer la croissance du cerveau humain spécifique de l'homme moderne par rapport aux singes qui l'ont précédé. Alors, ce scénario est évidemment intéressant, mais en même temps, comme le faisaient remarquer très rapidement des scientifiques qui avaient analysé l'article, il y a un petit problème dans ce scénario. C'est que, imaginez, nous nous plaçons à 2,5 millions d'années, dans une famille d'hommes primitifs à la grosse mâchoire, naît un enfant qui a cette mâchoire tout à fait réduite. Il est difficile de voir quel a été immédiatement l'avantage sélectif que cette variation lui a apporté. Peut-être qu'à long terme, elle a permis le développement de la tête et du cerveau, mais immédiatement, il n'y avait aucun avantage sélectif. Et ça, pour des évolutionnistes, c'est un problème, parce qu'une variation ne va rester que si elle confère immédiatement un avantage sélectif. Deuxième problème d'ailleurs dans ce scénario, c'est que l'homme de Néandertal avait apparemment une très grosse mâchoire et cela ne l'empêchait pas, comme je pense vous l'avez entendu hier, d'avoir une capacité crânienne cérébrale à peu près équivalente à celle de l'homme moderne. Donc il faut se méfier des scénarios très simples, en particulier des scénarios évolutifs qui voient tout de suite un avantage mais ne cherchent pas quel a été l'avantage immédiat procuré par la variation. Alors maintenant, je vais vous parler d'un deuxième gène, sans doute le plus célèbre dans les travaux récents. C'est le gène FOXP2. Toute l'histoire a commencé par ces analyses, qui sont des analyses de famille, dans lesquelles on observait une mutation ayant des effets dominants, c'est-à-dire qu'il suffit d'une seule copie du gène muté pour que l'effet se manifeste. Cette mutation conduisait à des problèmes d'expression linguistique. Ceci a été analysé par la linguiste Fardane Varga Kadem il y a déjà près de 20 ans. Donc, quand on a une mutation, on peut la localiser sur les chromosomes relativement facilement, mais après, il est en général très difficile de localiser, de déterminer le gène impliqué. Par chance, si on peut dire, une autre famille présentant les mêmes troubles a été décrite, et dans cette famille, l'altération du gène correspondait à une translocation du chromosome, c'est-à-dire une cassure et une relégature du chromosome. Pour les généticiens, c'est le moyen de mettre tout de suite la main sur le gène considéré. Donc le gène qui était muté dans cette famille a été caractérisé, séquencé, et il a été montré qu'il codait pour une protéine appelée FOXP2, qui est une protéine qu'on appelle régulatrice de la transcription. C'est-à-dire c'est une protéine qui va contrôler l'activité, l'expression d'un ensemble d'autres gènes. Alors pourquoi le gène FOXP2? Alors, deuxième élément, est un bon candidat. Ensuite, quand on a regardé si ce gène avait varié, muté au cours de l'évolution, comme vous le voyez sur cette image, il a été montré qu'il était resté très stable depuis la souris, puisqu'il y a un seul acide aminé, une seule position a été changée depuis la séparation entre l'ancêtre de la souris actuelle et l'ancêtre des simiens. Par contre, comme vous le voyez spécifiquement dans la lignée humaine, deux mutations sont intervenues, deux acides aminés ont été changés, on n'observe pas le même phénomène chez les autres singes, et ces deux acides aminés modifient la fonction du gène, ils sont effectivement dans le domaine qui permet au produit du gène de se fixer à l'ADN et donc de réguler ses cibles. Tout ceci fait du gène FOXP2 un bon candidat, et l'article qui décrivait la caractérisation du gène était accompagné de ce petit dessin dans lequel vous voyez donc sur votre droite deux fermiers qui discutent entre eux, et sur la gauche un cochon. Le cochon demande « Qui est-ce qu'on mange à midi? J'espère que ce n'est pas moi. » Et les deux fermiers disent « Voilà le cochon qui a reçu l'implant génétique. » Sous-entendu, il vient de recevoir le gène du langage, il a commencé à parler. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que dans cette famille, le défaut repéré, c'était un problème linguistique. En particulier, c'était un problème qui touchait l'accord singulier-pluriel et puis aussi l'accord des temps dans les phrases. Donc les individus affectés ont du mal à prononcer des phrases correctes. Alors, qu'est-ce qui fait de ce gène FOXP2 qu'est-ce qui en fait un bon candidat pour avoir joué un rôle majeur dans l'évolution de l'homme moderne? Eh bien, premièrement, comme on l'a vu, sa mutation dans certaines familles conduit à un trouble précis du langage. Le gène a muté spécifiquement dans la lignée humaine. Il est exprimé dans le cerveau, dans plusieurs zones du cerveau d'ailleurs, aussi bien dans le cervelet que dans les lobes préfrontaux, ou dans le noyau codé, donc dans plusieurs zones du cerveau. C'est un gène régulateur, et ça je reviendrai, c'est important, parce que ça veut dire que son produit peut avoir une action sur beaucoup d'autres gènes, et donc en effet, les variations peuvent avoir un effet important. Et puis, on a essayé de voir ce qu'il en était de ce gène dans d'autres espèces animales dans lesquelles il y a une certaine expression vocale. Alors, Beaucoup d'espèces animales ont des cris, communiquent par des cris, des signaux sonores, mais il y en a quelques-unes qui sont en plus capables de modifier leurs signaux en fonction par exemple, de l'apprentissage qu'ils subiront durant la petite enfance. C'est le cas de certains oiseaux dans lesquels le chant peut être modifié. Il y a une sorte d'apprentissage. Or, ce qu'on a montré, c'est que chez ces animaux, le gène FOXP2 était aussi exprimé dans le cerveau, exprimé dans les zones du cerveau responsables du chant et de l'apprentissage du chant particulier. Et puis, alors les gènes cibles dont je ne vous ai pas encore parlé, quels sont ces gènes régulés par le produit du gène FOXP2? Eh bien, on trouve des gènes très intéressants, comme ceux qui contrôlent la croissance des prolongements des cellules nerveuses, comme les gènes qui contrôlent l'adressage des axones, qui interviennent dans ce qu'on appelle la plasticité synaptique, c'est-à-dire l'établissement de connexion entre les cellules nerveuses, qui interviennent dans la morphogénèse du système nerveux, etc. Donc un ensemble de gènes régulés par FOXP2 particulièrement intéressant. Alors aujourd'hui, les biologistes ont des outils extraordinaires à leur disposition. En particulier, grâce à ces outils, ils ont pu caractériser la mutation qui était donc responsable de ces déficits dans les familles concernées. Alors, pour faire cela, pour caractériser l'effet de cette mutation, ils ont introduit la mutation chez un organisme modèle qui est la souris. C'est ce qu'on appelle des expériences de knock-in. Et la souris elle-même, vous le savez, c'est un animal qui pousse des cris, mais en particulier qui peut communiquer dans le domaine de fréquences ultrasoniques, dans les ultrasons. Par exemple, la mère communique avec ses petits, où il y a aussi des signaux échangés lors de la recherche du partenaire sexuel. Et on a montré que quand on remplaçait le gène sauvage par cette forme mutée, il y avait apparemment une altération de ces signaux ultrasonores. Donc vous voyez, en plus on a montré effectivement que la mutation empêchait ou gênait la fixation de la protéine codée par le gène sur les gènes cibles. Donc on a un schéma explicatif qui tient bien. Maintenant, il y a quand même un certain nombre de difficultés. Premièrement, c'est que dire que la mutation dans ces familles ne cause que des troubles du langage est inexact. En réalité, les individus qui portent la mutation souffrent d'un certain nombre d'altérations de la motricité au niveau du visage. Ils ont du mal à enchaîner des mouvements assez précis. Donc, il semble qu'ils ont un déficit qu'on peut appeler cognitif et au niveau aussi du contrôle des mouvements, beaucoup plus large qu'une simple altération du langage. D'autre part, ces individus ont même une altération du cerveau qui peut être révélée par des examens comme des examens d'IRM. Donc, il y a une modification visible du cerveau chez les individus affectés. Donc, à nouveau, ce n'est pas une mutation qui ne touche que le langage. Et puis le gène FOXP2 dont je vous ai parlé, la protéine correspondante, participe à de nombreuses fonctions dans l'organisme. En particulier, il y a une famille de protéines du même type, parce qu'elles partagent un domaine structural, et ces protéines ont des rôles dans le développement embryonnaire. Et FOXP2, par exemple, avec une autre protéine appelée FOXP1, participe au développement du poumon et de l'œsophage pendant l'embryogenèse. Ensuite, je vous ai dit que la comparaison entre les espèces était intéressante, mais il y a aussi des observations un peu plus gênantes. Par exemple, il y a des observations intéressantes. Il y en a encore une que je n'avais pas mentionnée, qui est que les chauves-souris, vous savez, qui émettent et reçoivent des ultrasons pour se diriger, elles aussi, on observe que chez ces organismes aussi, le gène FOXP2 est exprimé dans les zones qui sont impliquées dans ces comportements et qu'apparemment, si on distingue les espèces de chauves-souris qui émettent de tels sons et celles qui n'émettent pas de tels ultrasons, on trouve que l'expression du gène FOXP2 et sa structure varient entre les deux types de chauves-souris. Donc, il y a des observations intéressantes. Mais en même temps, il y en a de plus problématiques. Comme par exemple le fait, je vous ai parlé des oiseaux qui apprennent, le gène FOXP2 est bien impliqué, exprimé dans les bonnes zones, mais on sait qu'il y a un des hémisphères cérébraux qui contrôle le chant, or le gène est exprimé de la même manière dans les deux hémisphères cérébraux. Donc, cette observation, et puis une autre observation, une dernière observation qui a un peu surpris, c'est qu'on a pu je ne sais pas si Catherine Annie vous en a parlé hier, mais on a pu essayer de voir quelle était la forme du gène FOXP2 chez l'homme de Néandertal. Et les données montraient que ce gène avait subi une pression de sélection positive forte, donc au cours du rameau humain, et on pensait que cette pression de sélection était relativement récente. Or, l'homme de Néandertal portait les variations qui sont propres à l'espèce humaine actuelle. Donc, ces variations étaient déjà intervenues avant la formation de l'homme de Néandertal. Alors, que penser de ces données? Je crois que les quelques conclusions provisoires. La première, c'est que ce n'est pas le gène du langage, le gène FOXP2. Si on a l'idée, comme dans le petit dessin que je vous ai montré, qu'il suffirait de prendre ce gène, de l'injecter à un animal pour que l'animal parle, eh bien, on se trompe. Il s'agit d'un gène qui a de multiples fonctions dans l'organisme, dont peut-être des fonctions importantes pour la mise en œuvre du langage. Mais de toute façon, le langage n'est pas apparu même dans l'espèce humaine en un jour, donc la possession du gène ne conduit pas tout de suite à la formation du langage. Ceci étant dit, c'est un gène intéressant, et alors, on ne peut pas savoir ce qu'il en sera dans quelques années, mais je serais prêt à parier que, effectivement, les variations de ce gène ont joué un certain rôle dans les modifications cérébrales qui ont accompagné la formation de l'être humain. Passons encore à un autre exemple, qui est un exemple, celui des microcéphalines. Alors là encore, pourquoi s'est-on intéressé à ces gènes? C'est une famille de 6 gènes. Première raison, c'est qu'on observe là encore dans certaines familles des mutations de ce gène qui ont un effet dramatique puisqu'elles réduisent la taille du cerveau et ramène le cerveau d'environ 1350 cm3 à 400 cm3. Donc on a une réduction énorme de taille du cerveau chez les individus qui portent cette mutation. D'autre part, on a pu montrer, avec les méthodes que je vous ai décrites, que le gène a été soumis à une pression de sélection positive lors de la formation de l'homme moderne. Ce gène intervient dans la division des cellules et en particulier dans la réparation de l'ADN qui se passe en même temps que se fait la réplication de l'ADN des cellules et donc la réplication cellulaire. D'où l'idée que l'accroissement du cerveau dans l'espèce humaine pourrait être dû à une variation d'activité ou de fonctionnalité de ce gène. Alors, il y a eu des résultats plus récents et un peu surprenants. Un chercheur américain d'origine chinoise qui s'appelle Bruce Lan a montré, il n'y a pas très longtemps, que ces gènes continueraient à évoluer dans l'espèce humaine. Et donc, il y aurait eu une variation récente de ces gènes et une pression de sélection forte en faveur de cette variation. Et même, il a pu identifier deux des gènes, donc de cet ensemble de 6 gènes. Un premier aurait subi une variation il y a environ 37 000 ans. Et depuis, cette variation aurait tendance à gagner la population humaine à cause de cette pression de sélection positive. Et un deuxième gène aurait lui-même muté il y a environ 6 000 ans. Et là encore, la variation de ce gène apporterait un avantage et donc serait en train de s'étendre dans la population humaine. Alors, ce qui est gênant un petit peu dans cette étude, c'est la carte de répartition de cette mutation récente, celle qui s'est produite il y a 37 000 années, telle qu'elle a été réalisée par ce chercheur. Donc, vous avez ici en noir la nouvelle forme, celle supposée donc apporter un avantage sélectif fort. Si vous observez bien cette carte, cette forme particulière, elle est très répandue dans les populations asiatiques, bien répandue dans la population humaine, très peu répandue dans les populations africaines. Alors, le scénario proposé ce chercheur, c'est de dire une mutation il y a 37 000 ans. C'est l'époque où on voit apparaître les premières formes d'expression artistique dans l'espèce humaine. C'est l'époque des cavernes ornées. 5-6 000 ans, c'est l'époque de la révolution néolithique, à peu près. D'où interprétation, chacune de ces variations a apporté un avantage qui a permis d'une part une expression artistique, donc une une expression symbolique dans l'espèce humaine, et puis ensuite qui a dû apporter d'autres avantages cognitifs ayant permis la révolution néolithique. Alors ce scénario peut paraître très séduisant, en réalité il ne l'est pas tellement. Premièrement parce que, quelle que soit la forme allélique de gène, tous les êtres humains aujourd'hui sont capables de parler de la même manière. Donc, et de s'exprimer, d'avoir les mêmes capacités symboliques, donc il n'y a pas de lien clair. D'ailleurs, les auteurs eux-mêmes ont essayé de relier ces variations au QI et ont atteint et ont obtenu des résultats négatifs. D'autres équipes ont essayé de relier ces variations à la forme de langage utilisée dans l'espèce humaine. En particulier, vous savez qu'au niveau de la langue, il y a certains peuples comme les Chinois qui utilisent une prononciation dite tonale, c'est-à-dire la manière dont on accentue un mot va en changer le sens. Et ils ont essayé de relier la présence ou non des allèles à ces différences linguistiques. Les résultats, à mon avis, ne sont pas encore concluants. Si je vous ai exposé assez longuement ce cas, c'est parce que je pense, d'une part, il contient une sorte d'erreur. Vous avez une mutation qui fait baisser la taille du cerveau. C'est une erreur de dire que le gène impliqué est pour autant responsable de la régulation de la taille du cerveau. Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'altération de ce gène conduit à des restrictions de taille du cerveau. Ça ne veut pas dire que la fonction normale du gène est de contrôler la taille du cerveau. Deuxièmement, vous voyez le danger de telles études. Effectivement, si on commence à penser que ces gènes sont, qu'il y a des formes différentes dans les différents représentants d'espèces humaines, on est sur une pente assez glissante. Mais heureusement, les résultats ont montré que ces hypothèses, jusqu'à maintenant, ne tiennent pas. Alors, un dernier exemple dans cette série de gènes qui auraient pu être impliqués dans le processus d'hominisation, c'est une séquence, alors là, qui ne va pas donner naissance à des protéines, mais donner naissance à des ARN. Alors, comment elle a été mis en évidence? Les auteurs ont d'abord cherché... se sont intéressés aux séquences non codantes. Vous savez que dans le génome humain en particulier, il n'y a qu'une petite partie du génome qui code pour des protéines, une grande partie est non codante. Une partie de cet ADN non codant est néanmoins transcrit en ARN qui pourrait avoir des fonctions. Dans cet ADN non codant, sous-entendu en protéines, on trouve que très souvent cet ADN mute très vite, il ne semble pas qu'il est soumis à une pression de sélection, mais on sait qu'il y a des zones de cet ADN non codant qui sont très conservées. Probablement, elles ont des fonctions importantes. Donc, les auteurs se sont intéressés à ces zones très conservées dans l'ADN non codant qui lui-même, en général, n'est pas conservé. Au sein de ces zones très conservées, ils se sont intéressés aux domaines qui, eux, ont varié pendant l'évolution humaine. Et cette fameuse séquence HAR1, est une séquence courte de 120 nucléotides qui a subi 18 mutations dans le rameau humain. Donc qui a évolué très vite, alors que je vous rappelle, on est dans un domaine qui normalement ne varie pas. Ensuite, évidemment, elle est intéressante aussi parce que l'ARN correspondant est exprimé dans le cerveau humain, en particulier à nouveau dans les lobes préfrontaux, entre les mois 2 et 5 de gestation, c'est-à-dire l'époque où le cerveau se forme. Ensuite, cet ARN est exprimé dans une catégorie de cellules particulières qu'on appelle les cellules de Karl-Retzius, qui sont des cellules qui participent qui ont un rôle majeur dans la formation des différentes couches de neurones des hémisphères cérébraux. Vous savez qu'on a 6 couches de neurones dans les hémisphères cérébraux. Ceci se fait par un mouvement de migration des neurones au cours du développement embryonnaire, et les cellules de Karl-Retzius sont des acteurs majeurs dans ce contrôle de ce processus de migration. Donc, tous ces éléments faisaient que le gène HAR1 apparaît comme un bon candidat nouveau pour avoir joué un rôle dans l'évolution humaine. Alors, comme souvent en science, vous savez sans doute qu'aujourd'hui, on a découvert que contrairement à ce qu'on avait imaginé, des ARN jouent un rôle majeur dans la régulation de l'expression des gènes. Et ces petits ARN, dits ARN régulateurs, aujourd'hui sont l'objet de beaucoup d'attention. Donc c'est une raison supplémentaire d'accorder de l'importance à ce gène qui code pour un ARN. Alors essayons de conclure un petit peu. Premièrement, je l'ai déjà dit, il faut faire attention de ne pas passer trop vite du déficit lié à une mutation particulière à l'idée que le gène impliqué a une fonction dans la création de cette structure. On l'a vu, une mutation dans les gènes dits de microcéphaline font qu'on a un petit cerveau. Ça ne veut pas dire pour autant que le gène a pour fonction de déterminer la taille du cerveau. Là, on fait un saut que l'on n'a pas le droit de faire. Il faut faire attention aussi à ne pas privilégier certaines données au détriment d'autres. Je veux dire, avec le gène FOXP2, cela apparaît de manière assez évidente. Le gène FOXP2 n'est certainement pas le gène du langage dans le sens avec la vision naïve qu'on pourrait avoir, qui est le gène qui va à lui seul permettre la formation du langage. Il y a un ensemble de données que je vous ai données qui montrent que ce gène a de multiples autres fonctions et qu'une hypothèse simpliste de ce type-là ne tient pas. Et puis d'autre part, et ça c'est un problème de ces approches de gènes candidats, c'est qu'évidemment on se focalise sur quelques gènes. Mais il ne faut pas oublier tous les autres gènes qui sont exprimés par exemple dans d'autres tissus, d'autres organes que le cerveau, et qui peuvent expliquer certaines des caractéristiques biologiques importantes de l'être humain. Par exemple, un groupe s'est intéressé à un gène qui s'appelle le gène Siglec, qui est exprimé à la surface des cellules, en particulier des cellules immunitaires, donc qui participent à la défense de l'organisme, et a montré qu'il y avait des différences entre l'homme et le singe au niveau de ce gène, et ceci pourrait expliquer la sensibilité différentielle de l'être humain et du singe, par exemple, à certains virus comme le HIV. Donc, attention, les différences entre l'être humain et les autres espèces comme par exemple les chimpanzés ne se limitent pas à la différence de taille du cerveau. Alors, ceci explique que, à côté de ces approches ciblées, on s'intéresse à des gènes, on essaie de voir comment ils ont varié dans l'évolution humaine, il y a un ensemble d'études aujourd'hui qui tentent des approches plus systématiques, si vous voulez, d'une certaine manière, et c'est-à-dire essayer cette fois de voir toutes les différences qui séparent l'être humain de son plus proche cousin, le chimpanzé. Vous avez sans doute entendu déjà dire que nous sommes très proches des chimpanzés. Le chiffre aujourd'hui démontré par les comparaisons des génomes est qu'il y a une différence de 1,23%, ce qui veut dire que pour 100 nucléotides, il y a eu une mutation 0,23 intervenue depuis la séparation entre l'homme et le chimpanzé. 1,23%, souvent, je reviendrai dessus, on dit c'est très peu. Tout dépend de ce qu'on entend par très peu. Si la taille du génome humain étant de 3 milliards de paires de bases, 1,23%, ça fait encore 40 millions de variations élémentaires entre l'homme et le chimpanzé. 40 millions, beaucoup de ces variations ne doivent avoir aucun rôle. Elles doivent être neutres, très probablement. Le problème, c'est que quand on les observe, quand on compare brutalement des génomes, on a peu de moyens, sauf ceux que j'ai essayé de discuter, de dire quelles sont les mutations, les variations qui ont été importantes. Donc vous voyez déjà la difficulté. Et en plus, il faut ajouter à ces variations élémentaires, ces mutations ponctuelles, comme on les appelle, qui remplacent un nucléotide par un autre, il faut ajouter d'autres types de variations, comme des petites insertions ou délétions des gènes, ce qu'on appelle les indèles. Et là, le chiffre actuel est aux alentours de au moins 3% de telles variations. Et puis, on sait qu'il y a d'autres événements plus massifs qui sont, par exemple, des duplications entières de gènes ou de parties de chromosomes. Et on sait que de tels événements de duplication sont aussi intervenus durant la formation de l'être humain ou du chimpanzé. Donc, vous voyez un peu la complexité quand on regarde l'ensemble des variations intervenues au cours de l'évolution récente. Néanmoins, on peut essayer d'avancer et en particulier, je vais vous donner trois approches différentes qui ont été utilisées. La première, c'est toujours d'essayer globalement d'avoir une idée du nombre de gènes qui a été soumis à une pression de sélection positive lors de la formation de l'être humain. Donc ça, c'est la première étude. On prend alors là, l'étude n'a pas été faite sur l'ensemble du génome, elle avait été faite sur seulement la moitié du génome de l'homme et du singe, sur environ 14 000 gènes. Et le résultat qu'on a obtenu est que le nombre de gènes qui ont subi une pression de sélection positive depuis la séparation entre l'homme et le chimpanzé est de 233 chez le chimpanzé et de 154 chez l'homme, l'être humain. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le chimpanzé a plus évolué que l'être humain. Alors, deuxième élément, on peut, comme je vous l'ai dit, s'intéresser à des événements importants comme la duplication de gènes. Il y a beaucoup de modèles qui supposent que la duplication de gènes a pu être un des mécanismes importants pour l'évolution, parce que quand vous dupliquez des gènes, ça permet à la fois de garder une copie du gène qui assure l'ancienne fonction, et en même temps, la nouvelle copie peut avoir de nouvelles fonctions. Alors là, c'est un petit peu mieux. Quand on regarde, comme vous le voyez, il y a eu pas mal de duplications de gènes lors de la formation de l'être humain, et il y en a eu plus que lors de la formation que chez le chimpanzé. Donc apparemment, il y a eu plus de duplications dans le rameau humain que dans le rameau qui a conduit au chimpanzé. Néanmoins, si vous regardez, vous remarquerez lors de la formation des rongeurs, il y a eu au fond plus de duplications de gènes qu'il n'y en a eu dans la formation des primates. Donc, contrairement à une vision qu'on pourrait avoir instinctivement, il n'y a rien qui saute aux yeux ici comme événement de duplication de gènes qui serait spécifique du rameau humain. Il y a bien eu des duplications de gènes, plus peut-être dans l'espèce humaine que dans la branche qui menait au chimpanzé, mais néanmoins, on a des duplications de gènes qui sont intervenues à beaucoup d'autres phases de l'évolution. Alors maintenant, une dernière approche, ça c'est des approches structurales, on compare les gènes, on cherche les différences. Une autre approche, c'est de s'intéresser non pas à la structure des gènes, mais à leur fonction, à leur expression, leur activité. C'est ce qu'on appelle la génomique fonctionnelle, et je sais que Bernard Dujan a déjà défini ces différences entre génomique structurale et génomique fonctionnelle. Donc dans ces études, on va s'intéresser aux différences d'activité des gènes, et non pas aux différences de structure. Pourquoi ? Eh bien, parce que depuis déjà pas mal d'années, depuis des résultats qui ont été obtenus par King et Wilson en 1975, c'est les résultats qui montraient cette petite différence de structure entre les gènes humains et les gènes de chimpanzés. King et Wilson avaient dit oui, mais en réalité, c'est parce que les variations intervenues entre l'homme et le singe au cours de l'évolution, les variations les plus importantes ne sont pas des variations structurales proprement parlées, mais c'est des variations d'expression. Alors, ces variations qui changent l'expression, ça peut être des variations dans des protéines qui contrôlent l'expression de gènes, c'est pour ça que le gène FOXP2 est intéressant, mais ça peut être aussi dans des variations dans des séquences de l'ADN qui est non codant. Toujours est-il que là, l'idée... Finalement, c'est l'idée que François Jacob a beaucoup développée, qui est que le monde vivant ressemble un peu à une sorte de mécano, c'est-à-dire qu'on a toujours les mêmes pièces. Et ce qui a contribué à l'évolution, c'est plutôt d'avoir modifié ces pièces, d'en avoir exprimé plus des unes que les autres, mais que les différences structurales au niveau des composants élémentaires ne sont pas tellement importantes. L'évolution s'est faite en réarrangeant des pièces qui, elles, n'étaient pas très différentes. Et réarrangeant veut dire aussi changer l'expression de ces pièces, la quantité qu'on a de telle ou telle molécule. Alors, que donne cette comparaison donc, de génomique fonctionnelle entre l'homme et le chimpanzé ? Eh bien, comme je l'ai mis sur cette image, en réalité, il y a eu des premiers résultats très encourageants, et puis maintenant, où les méthodes sont plus performantes, où on a éliminé un certain nombre de biais, les choses sont beaucoup moins simples. Les résultats les plus intéressants avaient été ceux obtenus il y a déjà 6 ans par le groupe de Svante Paabo. Il avait comparé l'expression des gènes dans le cerveau, le sang et le foie. Et alors, dans ce type de représentation, ce qui est significatif, c'est la longueur de la barre entre le point central et l'espèce considérée. Et comme vous le voyez, Si on comparait l'expression des gènes dans le foie en bas ou dans le sang, finalement, il y avait eu depuis la séparation des différentes espèces de singes un certain nombre de variations, mais au fond, elles étaient à peu près les mêmes dans les différentes espèces animales. Par contre, au niveau du cerveau, il semblait que la quantité de variation, donc dans l'expression des gènes, vous voyez la branche qui part du point central et qui va vers l'homme, était plus longue, ce qui veut dire qu'il y avait plus de variations d'expression des gènes dans le rameau humain que chez les chimpanzés et les gorilles ou les autres espèces de singes. Donc il y aurait eu une variation d'expression des gènes dans le cerveau très importante par rapport à ce qui s'était produit dans les autres espèces animales. Le problème, c'est que ces résultats ont été alors modulés par certains auteurs qui ont dit que cette variation était une surexpression, et puis après ils ont dit qu'on la voyait que si on s'intéressait à une partie particulière du cerveau, jusqu'en arriver au dernier résultat obtenu d'ailleurs par le même groupe, qui cette fois a quantifié ces différences d'expression des gènes. Et alors là, comme vous pouvez le voir, eh bien c'est le contraire. L'expression des gènes a le moins changé dans le cerveau, et l'organe dans lequel il y a eu le plus de variations d'expression des gènes, c'est les testicules. Alors pourquoi ? Bon, ceci peut avoir un sens biologique. On sait que lorsqu'il y a des phénomènes de spéciation, il peut y avoir variations rapides dans les organes génitaux, et en particulier il peut y avoir ce qu'on appelle une sélection sexuelle qui modifie l'expression des protéines dans les testicules. Néanmoins, le résultat est là. Au fond, c'est pas le cerveau, là encore, ne se distingue pas. Il n'y a pas rien eu de spécifique dans la variation d'expression des gènes dans le cerveau humain. Alors les auteurs, en conclusion de leurs articles, disaient qu'il faut peut-être quand même moduler ce propos. Si on regarde certaines zones du cerveau, en particulier les lobes préfrontaux, on peut observer peut-être que là, il y a eu des variations d'activité des gènes importantes. Le problème, c'est que quand ils analysaient quels étaient les gènes qui avaient varié, c'était des gènes qui sont impliqués dans le métabolisme du glucose et la respiration cellulaire. Je reviendrai là-dessus, mais donc, à nouveau, peut-être pas ce qu'on avait pu rêver. Alors, pour conclure sur cette partie, sur ces deux premières parties, je voudrais vous raconter une petite histoire que Jeff Hecht présentait dans un article de Nature relativement récent. C'était une discussion entre deux biologistes, quelqu'un qui travaillait, qui comparait les génomes humains et le génome de l'homme de Néandertal, et puis son chef qui essayait d'obtenir les résultats parce que ce chercheur ne voulait pas les lui communiquer avant d'être absolument sûr de ses résultats. Et donc, après de longues discussions, le chercheur arrivait quand même à lâcher que, oui, il trouvait des différences importantes entre l'homme de Néandertal et l'être humain, ou plutôt, il ne trouvait pas des différences, mais il avait réussi à montrer que probablement un gène de l'homme de Néandertal était passé de l'homme de Néandertal à l'homme moderne. Vous savez que c'est très disputé pour savoir s'il y a eu des hybridations entre l'homme de Néandertal et l'homme moderne, mais là, les données biologiques semblaient dire que oui, et ce gène qui était passé de l'homme de Néandertal à l'homme moderne, c'était le gène du don des mathématiques, qui était aussi impliqué d'ailleurs dans la concentration sur son travail, mais aussi d'ailleurs dans des tendances obsessionnelles. Par contre, il y avait un autre gène, alors lui qui semblait spécifique de l'homme moderne et qu'on ne trouvait pas chez l'homme de Néandertal, et c'était un gène impliqué dans la socialisation et le management. Bon, on n'est pas tellement loin de ce que je vous ai dit, mais évidemment, ce genre de récit montre d'abord qu'il y a quelque chose d'absurde de vouloir avoir des gènes qui aient ce type de fonction, et d'autre part, il montre un peu aussi, au fond, cette idée qu'on a, et ce récit est choquant, parce qu'on s'attendrait que ce soit l'homme moderne qui soit doué pour les maths, et pas l'homme de Néandertal, puisque c'est lui qui au fond, a développé ensuite les mathématiques, la culture, etc. Il y a un problème. Alors, deuxièmement, je crois que toutes ces études, à l'heure actuelle, amènent à une conclusion qui est que l'être humain n'a pas plus évolué que le chimpanzé. Ça, au point de vue biologique, ça veut dire qu'il y a eu des variations avec des pressions de sélection positives, mais que l'être humain n'a pas plus évolué que le chimpanzé. Et troisième conclusion, je n'ai pas insisté dessus, mais les derniers travaux que je vous ai montrés là, ces différences d'expression des gènes dans différents tissus, la conclusion des auteurs était que probablement ces différences étaient essentiellement neutres. C'est-à-dire elles étaient simplement des variations, des mutations qui s'étaient produites, qui avaient changé l'activité des gènes et qui n'avaient pas été sélectionnées, mais que dans la majorité des cas, il n'y avait aucune trace d'une sélection positive ou négative. Et puis un dernier point, c'est que même s'il y a eu des pressions de sélection, elles ne sont pas forcément pour les qualités que nous pourrions considérer comme étant humaines. Je vous ai parlé tout à l'heure de la microcéphaline et donc cette idée qu'elle aurait évolué récemment avec une pression de sélection positive. Mais il se trouve que la microcéphaline est aussi exprimée dans les spermatozoïdes, où elle semble jouer un rôle important. Et donc même si elle a évolué récemment, on peut penser que c'est pour favoriser la fonction de reproduction et pas pour favoriser la formation du cerveau. Alors, quelques conclusions scientifiques et philosophiques. Je pense que ces travaux sont importants pour chasser des visions naïves. Ces visions naïves, c'est quoi? Elles ne sont pas si anciennes. Il y a encore 20 ans, on lisait dans tous les ouvrages de biologie que probablement l'homme avait à peu près 200 000 gènes, donc beaucoup plus que les espèces animales plus simples, comme par exemple la mouche ou le nématode, et que parmi ces 200 000 gènes, il y en avait bien 150 000 qui devaient être responsables, s'exprimer dans le cerveau, être responsables des fonctions cognitives supérieures. Les données actuelles chassent aussi l'idée qu'au fond, on pourrait expliquer simplement l'évolution humaine, par exemple, par des changements de chromosomes. Un simple changement de la formule chromosomique, il y en a eu une, aurait pu expliquer la formation de l'homme moderne. Ce n'est pas le cas. Ce type d'explication simpliste ne tient pas. Encore une explication relativement simpliste par un des plus grands évolutionnistes pourtant, Ernst Mayr, en 1965. Donc vous voyez qu'il disait que la lignée Homo sapiens varia sous une énorme pression de sélection. Pourquoi? Parce qu'on a l'idée que le développement du cerveau a dû conférer un tel avantage sélectif que tout de suite l'espèce humaine subissait une pression de sélection positive très forte, et qu'il disait le changement qui en résulta pour certains caractères est presque sans précédent, au moins en ce qui concerne les données moléculaires qu'on a. Je veux dire, ces deux affirmations sont aujourd'hui, on peut montrer qu'elles sont inexactes. Alors, deuxième point sur lequel je voudrais vous faire réfléchir, c'est que le point que je disais, on dit souvent qu'il y a une petite différence entre l'être humain et le chimpanzé. Comme je vous l'ai dit, petite différence, 40 millions de mutations, c'est pas si petit que ça. Je pense que c'est le genre de phrase qui n'a aucun sens. C'est pas petit, c'est pas grand, c'est ce que vous voulez, c'est des chiffres, mais il faut pas donner de valeur à ces différences. Et je voudrais juste citer quelques phrases extraites d'un point de vue qui était celui d'un spécialiste de la génétique de l'évolution humaine, Svante Paabo, dans un article écrit maintenant il y a quelques années, 2001. Prenez la première phrase. Nul doute que la vue génomique de notre place dans la nature sera à la fois une source d'humilité et un coup porté à l'idée d'unicité humaine. Alors que veut dire une source d'humilité? Parce que nous sommes proches des chimpanzés? Proches comme, qu'est-ce que ça veut dire, un 23%? 40 millions de différences, en quoi ça doit nous conduire à l'humilité? Et deuxièmement, en quoi ça porte atteinte à l'unicité humaine? Personnellement, je ne vois pas vraiment le rapport entre les séquences de gènes et des affirmations aussi fortes. Prenez la deuxième phrase. Réalisez qu'un ou quelques accidents génétiques ont rendu l'histoire humaine possible, nous fournira un ensemble de défis philosophiques auxquels penser. Je n'aime pas cette deuxième phrase à cause du terme « accident ». Accident veut dire événement. Mais pourquoi utiliser le terme d'accident qui a l'air de dire que c'est quelque chose qui n'a aucune valeur? Et je crois, je reviens au point ici, l'évolution n'est pas, comme on le dit souvent, le fruit d'un accident et du hasard avec le sens fort qu'on donne. Tout ce que doivent dire les scientifiques, c'est qu'il y a eu un certain nombre de variations au cours de la formation de l'homme moderne, un grand nombre de variations, que certaines ont sans doute été sélectionnées, mais il y a évidemment ces variations ont été survenues par un mécanisme stochastique au hasard, mais on ne peut pas dire pour autant que l'évolution soit le fruit d'un hasard et d'accident. C'est une phrase qui va bien au-delà de ce qu'on peut dire scientifiquement. Autre point, il n'y a pas d'évolution linéaire. Ceci veut dire qu'il faut se méfier de l'idée qu'au fond, on aurait un scénario qui poussait vers l'être humain avec un plus grand cerveau, des caractéristiques culturelles plus développées, etc. Le peu qu'on connaisse déjà de l'évolution humaine montre qu'elle n'est pas linéaire. Prenez l'homme de Néandertal, avait déjà une capacité cognitive forte. Il enterrait les morts, etc. Donc ça prouve qu'il avait probablement des capacités symboliques déjà importantes. Prenez au contraire l'homme de Flores aujourd'hui, vous savez, ce petit homme qui a été trouvé en Indonésie. Il n'est pas encore clair quelle est la signification, mais une des possibilités, ça serait simplement qu'un homme primitif aurait, d'une certaine manière, vu ses capacités cognitives diminuées à cause de l'absence de concurrence dans un environnement particulier. Donc l'évolution n'est pas forcément orientée. En plus, il y a des données qui suggèrent que peut-être l'évolution humaine et la séparation avec le rameau qui allait conduire au chimpanzé ne s'est pas fait en une seule étape, mais qu'on a pu avoir, comme c'est représenté ici, pendant une certaine période, des possibilités d'hybridation entre les premiers individus qui allaient donner naissance aux chimpanzés modernes et ceux qui allaient donner naissance à l'homme moderne. Donc, attention à cette vision linéaire de l'évolution humaine. L'apparition de nouvelles caractéristiques n'est pas liée forcément non plus à la spéciation. Une nouvelle espèce qui apparaît va emprunter beaucoup de ses caractères aux espèces qui l'ont précédée. La spéciation, l'isolement sous forme d'une nouvelle espèce, n'est pas lié à l'apparition forcément de nouvelles qualités. Il ne faut pas avoir cette vision, nouvelle espèce, nouvelles caractéristiques. Du point de vue de l'évolution, c'est beaucoup plus compliqué. Mais peut-être que le plus important, ce sont les trois derniers points. Le premier, c'est que les gènes ne portent pas de fonction humaine. Les gènes codent pour des protéines ou des ARN qui ont des fonctions élémentaires. Et à partir de ces fonctions élémentaires, va être engendrée des fonctions plus complexes. De deux manières, d'ailleurs. La première, c'est que les produits des gènes vont s'associer sous forme de voies, de réseaux, de complexes qui ont des activités qu'on appelle des machines macromoléculaires. Ensuite, on sait que ces composants élémentaires peuvent participer souvent à des processus complexes différents, qu'au contraire, une même fonction au niveau cellulaire peut être remplie par des composants élémentaires différents. Et puis, comme on l'a déjà vu, les composants élémentaires du vivant, les protéines, les ARN régulateurs, ont été conservés au cours de l'évolution. Donc, toutes ces caractéristiques font qu'il ne peut pas y avoir de gènes, par exemple, du langage. C'est une absurdité. Il peut y avoir des gènes dont les variations ont eu un rôle, mais ça sera de toute façon à travers les interactions avec beaucoup d'autres gènes. Imaginez par exemple qu'il y a une variation dans un gène régulateur. Cette variation du gène régulateur va modifier l'expression d'un certain nombre de gènes. Ces autres gènes qui n'ont pas varié vont pourtant peut-être jouer un rôle essentiel dans la réalisation de nouvelles fonctions. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas lier l'avènement de nouvelles fonctions au niveau macroscopique avec forcément des variations élémentaires au niveau des composants élémentaires. Et puis alors, deuxième niveau d'intégration, c'est celui qui avait été très bien décrit par François Jacob déjà il y a plus de 20 ans. Il y a dans le monde vivant une hiérarchie de niveaux et, comme le dit François Jacob, à chaque niveau, il y a des règles différentes. Les règles qui valent au niveau élémentaire s'appliquent au niveau supérieur. Mais par contre, ce ne sont pas les règles les plus intéressantes pour comprendre ce qui se passe au niveau supérieur. Quand on s'intéresse à l'évolution humaine, on s'intéresse, par exemple, à la formation du langage, aux aptitudes cognitives spécifiques des êtres humains. On va étudier ces caractéristiques. Les neurophysiologistes vont étudier comment le cerveau humain fonctionne, les zones, les lobes préfrontaux, par exemple. Les linguistes vont étudier le langage humain. Tout ce que ces spécialistes vont apporter est important pour comprendre ce qui caractérise l'être humain. Bien évidemment, ces nouvelles caractéristiques vont avoir une sorte de substrat matériel sous forme de macromolécules, mais elles ne vont pas pouvoir être déduites directement des produits de l'action des gènes. Et puis, encore un autre point, peut-être encore plus important. Je crois que dans la vision qu'on a de l'évolution humaine, on a, scientifique et non scientifique, à ce point de vue, l'erreur est bien partagée, on a une vision un peu préformiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a l'impression qu'on va pouvoir expliquer ce qui fait l'être humain à partir directement de là où des quelques variations génétiques qui ont pu se produire il y a 5-6 millions d'années. En réalité, ces variations génétiques ont ouvert des possibilités à l'évolution humaine, mais elles ne contenaient pas en germe tout ce qui s'est passé ensuite dans l'évolution humaine. Si vous voulez, les variations génétiques ouvrent un espace des possibles, mais cet espace des possibles, il n'existait pas avant que ces variations ne surviennent. Et puis, comme je vous l'ai déjà dit, le progrès des connaissances dans le futur viendra non pas des seules connaissances génétiques et génomiques, mais il viendra de l'articulation de ces connaissances avec les connaissances acquises par les neurophysiologistes, les linguistes, les spécialistes du comportement. Tous ont à dire sur les différences entre l'être humain et ses plus proches cousins. Et pas seulement les généticiens. Les généticiens diront des choses, mais si vous voulez, on peut prendre une analogie. Si vous voulez comprendre comment fonctionne un poste de radio, vous pouvez vous intéresser aux transistors que vous allez trouver dans le poste de radio. Évidemment, ils ont un rôle important, mais ça ne sera certainement pas suffisant pour comprendre comment fonctionne le poste de radio. Vous aurez besoin aussi de comprendre autre chose, comment les circuits sont organisés, d'avoir des idées sur la transmission des ondes, etc. C'est un peu la même chose pour comprendre l'être humain. On peut s'intéresser aux composants élémentaires. Ça nous dira certainement des choses intéressantes. Le gène FOXP2 est sans doute un bon candidat pour essayer de comprendre le type de mécanisme qui a pu permettre une certaine complexification du cerveau, mais l'explication de la spécificité humaine ne sera pas dans la caractérisation directe des gènes. Donc, ce n'est pas l'analyse des génomes qui nous dira ce qui nous fait humain, contrairement à ce que avait proposé le professeur Sakaki au moment où on commençait à faire le séquençage des génomes et à comparer les génomes. Alors, en science, on a un peu ce qu'on appelle un horizon d'attente, c'est-à-dire chaque époque, on attend des explications d'un certain type. J'ai essayé de vous montrer qu'on avait attendu des explications probablement naïves de l'évolution humaine, qu'aujourd'hui, grâce au génome, la connaissance des génomes, la comparaison des génomes, on a une vision beaucoup moins naïve de ce qu'a pu être l'évolution humaine, mais je vous laisserai avec cette citation de François Jacob, qui, je pense, est parfaitement réel, c'est-à-dire, quelles que soient les prédictions qu'on peut faire, les résultats qu'on obtient en science sont toujours différents de ce qu'on pouvait attendre à l'époque antérieure. Donc, on aura sûrement des surprises dans les années, les décennies qui viennent, dans la connaissance du génome humain et sa comparaison avec les génomes d'autres espèces, et dans ce que nous dira cette connaissance sur la formation de l'être humain moderne. Merci.
Alors, merci beaucoup, Michel Morange. On va passer aux questions. Alors, une au milieu, là-haut, s'il vous plaît.
Merci. Que penser aujourd'hui des livres de François Jacob, effectivement, La logique du vivant, qui date des années 60. La logique du vivant, donc, vous en avez un petit peu parlé d'une certaine manière. Et puis le livre de François de Monod, Le hasard et la nécessité, si vous voulez. Parce que j'ai essayé, à travers votre exposé, de voir si vous êtes plus pour une approche déterministe de l'évolution ou une approche plutôt fondée sur le hasard, les contingences, etc. Moi, mon opinion, c'est que les deux se mélangeraient. L'évolution serait le produit de facteurs externes, c'est-à-dire le milieu, l'influence du milieu d'une part, et puis peut-être aussi du hasard. C'est peut-être l'intrication de ces deux logiques, au fond, qui peuvent prévaloir, au lieu de dire, voilà, déterminisme ou hasard, vous voyez. Tout simplement pour voir aujourd'hui que penser du livre de Monod, Le hasard et la nécessité, qui date du début des années 60, ou fin des années 60, vous voyez, compte tenu des recherches actuelles.
Alors j'ai surtout parlé de François Jacob, effectivement, d'abord parce qu'il a écrit beaucoup plus tard que Jacques Monod, et donc il a pu suivre un peu les transformations de la biologie. Hasard et nécessité, c'est un vaste débat, vous le savez. Il y a clairement du hasard dans l'évolution, puisqu'il y a le hasard des mutations, il y a le hasard des milieux dans lesquels ces mutations se produisent et de l'avantage sélectif qu'elles peuvent conférer. En même temps, les mécanismes moléculaires qui vont être modifiés par ces variations au hasard obéissent à un certain déterminisme physico-chimique. Les variations ne peuvent pas faire n'importe quoi. Il y a des contraintes dans la machinerie physico-chimique du vivant. Donc, je pense qu'on n'a pas à choisir entre hasard et déterminisme. Il y a des hasards, une addition de hasards, d'événements qui surviennent de manière stochastique, et des déterminismes qui sont liés à la constitution même de cette machinerie physico-chimique que représente le vivant. Donc, je pense que les deux sont effectivement alliés, peut-être pas dans le sens que disait Jacques Monod, mais...
C'est un peu une variante sur cette discussion du hasard, n'est-ce pas ? Mais on a du mal, puisque vous parliez de pas simplement se baser sur des analyses du génome, etc., mais faire une approche un peu plus pluridisciplinaire. Je voudrais discuter un peu du problème de la finalité, n'est-ce pas ? Ce qui frappe quand même, n'importe quelle personne sans avoir fait de la génétique, c'est de voir les performances dont est capable l'homme aujourd'hui, et on a du mal, si vous voulez, à dire que le cerveau humain est le résultat du hasard, ce cerveau humain ayant été capable d'envoyer des sondes et des missiles sur la Lune ou sur Mars. Si vous voulez, ce contraste entre cette finalité dont est doté l'homme, cette possibilité qu'il a de réaliser des choses anti-hasard, en quelque sorte, et d'autre part, de mettre au point de départ de cette créature le hasard, pour moi, c'est un paradoxe absolu.
Sur le premier point, je pense que vous avez raison, les capacités cognitives de l'homme sont effectivement tout à fait étonnantes, c'est certain. Mais je pense que là, il ne faut pas attendre du généticien ou du génomiste qui nous dise grand-chose là-dessus. Le neurophysiologiste, l'anthropologue peut dire beaucoup plus de choses sur les capacités humaines que ne peut le dire le généticien ou le spécialiste des génomes. Ce que le généticien ou spécialiste des génomes pourra vous dire, c'est voilà les variations qui apparemment, et encore, pourra peut-être dans un futur plus ou moins lointain, voilà les variations qui, d'une certaine manière, ont permis peut-être le développement de certains circuits nerveux qui, à leur tour, vont permettre certaines capacités cognitives dans l'espèce humaine. Il ne faut pas attendre du généticien ou du génomiste qui vous dise plus que cela. Et c'est dans ce sens que je voulais dire, il ne faut pas être préformiste. C'est-à-dire, les variations se sont produites. Ce que je dois faire, je pense, le généticien, c'est dire, voilà les variations qui se sont produites. Dans quelles circonstances elles se sont produites? Quels effets elles ont eu? Et c'est tout ce qu'il peut dire. Quels effets elles ont eu? Ça veut dire, par exemple, elles ont permis le développement de telle structure cérébrale, augmenter la taille de telle aire cérébrale, etc. On observe à ce moment-là une certaine plasticité entre les synapses qui n'existaient pas avant. Voilà ce qu'il peut dire. Je pense que son discours doit s'arrêter là, si vous voulez. D'abord, insister sur le hasard, ça n'a guère de sens, parce qu'il y a hasard dans la variation de départ. Mais il n'y a pas hasard ni dans la sélection, ni dans le fait que ces variations vont s'intégrer aux autres composants moléculaires pour donner nouvelles fonctions. Là, il y a un certain déterminisme qui intervient. Mais en tout cas, je pense que ce n'est pas aux scientifiques d'aller au-delà, de dire simplement, voilà ce que je peux dire. Il y a eu telle variation à tel moment, elle a eu sans doute tel effet, et je peux essayer d'expliquer, alors ça, je pense que ça sera un long processus, pas demain qu'on arrivera, mais essayer de relier ces variations élémentaires à ce qu'on connaît, par exemple des différences anatomiques au niveau du cerveau. Et la science, à mon avis, doit s'arrêter là. Après, on sort de la science.
Au sujet des variations qui peuvent être soit neutres, soit positives, soit négatives, pour ce qui est des variations neutres, est-ce qu'on peut imaginer des mécanismes où une variation neutre apparaît à un moment donné, bien plus tard et peut-être dans un autre groupe ou une partie du groupe, une autre variation neutre apparaît, et à un moment donné, l'interaction des deux dans un même individu fait que ce qui était neutre au départ peut créer un mécanisme qui lui-même ne va pas être neutre et va être sélectionné ensuite. Est-ce qu'on peut dire que la neutralité dans ces cas-là est neutre à un moment donné, mais ça peut changer en fait.
Tout à fait. Et je pense que c'est un point très, très intéressant. Oui, ça peut être neutre à un moment donné, ne plus l'être neutre après, lorsque par exemple, comme vous le dites, ça va interagir avec une autre variation elle-même neutre, mais pour permettre des effets. Tout à fait. On peut imaginer aussi, j'en ai pas parlé dans mon exposé, c'est que certaines variations aient pu être sélectionnées, par exemple, positivement, donc apporter un avantage, mais qui n'est pas l'avantage qui finalement va nous apparaître aujourd'hui. C'est-à-dire que des variations aient pu avoir un effet immédiat sur tel ou tel organe, et qu'ensuite ils aient aussi modifié la structure de tel ou tel autre organe et permis, par exemple, ultérieurement à cet organe d'acquérir d'autres possibilités. C'est ce qu'on appelle, les évolutionnistes appellent des exaptations. C'est-à-dire de dire que la variation apparaît d'abord et est sélectionnée parce qu'elle confère un certain avantage, mais qu'ultérieurement, elle va pouvoir apporter un autre avantage, mais en interaction avec un autre système ou dans un autre organe ou pour une autre fonction. Donc effectivement, c'est une histoire, je pense. On a une histoire évolutive complexe qui ne suit pas un chemin tout tracé, mais qui est comme ça le fruit d'une série d'événements.
Trois points, si vous permettez. Le premier point, il y a un article qui a paru dans le journal qui nous a été distribué à l'entrée d'un chercheur de Grenoble. Et ce chercheur écrit ceci. Des recherches récentes semblent montrer que le singe dispose des composantes anatomiques nécessaires à la parole et pourtant il ne parle pas. Il lui manque les commandes de cet appareil qui se trouve bien évidemment dans le cerveau humain. Autrement dit, il semblerait qu'il faut étudier plutôt les choses du côté du cerveau que du côté de la langue. Mais lui, il a étudié particulièrement le côté langue. Deuxième point, je suis étonné que finalement on se base, enfin en tout cas les généticiens se basent surtout sur des études qui font intervenir la phylogénèse, alors que Haeckel avait dit l'ontogénèse reproduit la phylogénèse. Et on peut rappeler que le langage n'apparaît pas à la naissance, le langage apparaît à un certain moment du développement de l'individu. Est-ce que à ce moment-là, on pourrait déterminer les gènes qui s'expriment à ce moment-là? Et troisièmement, et dernièrement, j'arrête après, le langage c'est merveilleux, mais ça peut aussi vous permettre de dire des bêtises. Donc ce n'est qu'un instrument finalement, si perfectionné soit-il.
Bon, beaucoup de questions, toutes importantes. Dernier point, c'est un instrument certes, mais Alors là, encore des linguistes ou des spécialistes des sciences cognitives vous parleraient mieux que moi. Mais je pense que le langage n'est pas qu'un instrument de l'expression d'une sorte de pensée pré-linguistique qui, au fond, serait là avant et le langage permettrait juste de la transmettre. En réalité, la pensée conceptuelle et le langage ont évolué de pair. Le langage est un vecteur extraordinaire pour la pensée. Sur le développement embryonnaire, vous avez tout à fait raison. Effectivement, si on prend le langage, il apparaît, c'est même fascinant d'ailleurs, parce que quand on regarde le développement d'un enfant, on a l'impression quelquefois que les choses se mettent petit à petit en place, ils répètent, et puis à un moment, ça y est, il va commencer à mettre les mots ensemble, à commencer des phrases à articuler. Alors certainement, vous avez raison aussi, il se passe à ce moment-là des choses dans le cerveau, dans les aires cérébrales. Regarder les gènes, oui, sans doute. D'abord, bon, ça, c'est pas très facile. On ne peut pas aller comme ça, regarder les gènes à ce moment-là. Mais certainement, oui, il ne s'agit pas de regarder uniquement les gènes comme je les décris, peut-être un peu de manière simple, en vous disant, voilà les gènes qui sont importants parce qu'ils permettent de bâtir les zones cérébrales, mais aussi les gènes, effectivement, continuent à avoir une expression, une activité dans ces structures. Il doit se passer des choses très importantes à ce moment-là. Il faudrait effectivement les étudier. Quant à la première hypothèse, c'est surtout dans le cerveau, je pense que oui, même si là encore je ne suis pas spécialiste, mais je pense qu'on s'accorde à penser que c'est plutôt le problème des capacités cognitives cérébrales qui sont le prérequisite pour l'apparition du langage, bien plus que les muscles, par exemple, au niveau de la gorge, etc. Je pense que oui, on pense que c'est là qu'est la limite. D'ailleurs, parce que le langage humain, bon, on sait très bien, il peut s'exprimer par d'autres canaux que la parole, le langage des sourds-muets, et puis il y a d'autres formes d'expression linguistique qui ne passent pas par la parole.
S'il vous plaît, est-ce que, au niveau des duplications de gènes ou de parties d'ADN, on ne peut pas considérer que c'est très important au point de vue du comportement, après, aussi bien chez le singe que chez l'humain? Et est-ce que ces duplications existent de façon différente chez certains singes de la même espèce? Et est-ce que chez l'humain, on trouve des duplications de gènes différentes pour certains gènes qui sont les mêmes?
Alors, je n'ai pas des réponses aussi précises. Le message général, c'est que la duplication de gènes est un phénomène qui s'est produit de manière permanente au cours de l'évolution des formes vivantes. Le fait qu'il y ait des duplications de gènes dans l'espèce humaine n'a rien de spécifique. Maintenant, que ces duplications puissent correspondre à des gènes qui ont des fonctions particulières, pourquoi pas? Bien qu'à nouveau, je pense qu'il faut se méfier. Peut-être qu'il y a des gènes dont la duplication est importante, mais probablement il y en a d'autres où la duplication n'a pas joué le rôle qu'on voudrait lui faire jouer. J'ai donné quelques exemples. Pour la duplication, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si quelqu'un... On peut peut-être la voir, mais en tout cas, dans les articles que j'ai vus, les catégories fonctionnelles des gènes dupliqués n'avaient rien de tout à fait remarquable. Parmi les gènes qui sont dupliqués dans le rameau humain, on trouve par exemple des gènes qui ont à voir avec les phénomènes d'immunité. Alors, c'est très intéressant, parce que ça veut peut-être dire les sensibilités particulières de l'espèce humaine à certaines maladies. Mais évidemment, à nouveau, c'est peut-être pas ce qu'on attend pour essayer de comprendre les fonctions cognitives, le fonctionnement du cerveau, etc. Mais c'est important pour la physiologie et la biologie humaine. Bon, on aura sans doute ce genre d'éléments. Mais je pense qu'il ne faut pas s'attendre à, si vous voulez, prouver, par exemple, que ça certainement pas que tous les gènes dupliqués dans le rameau humain ont une fonction absolument essentielle pour ce que nous considérons comme les fonctions supérieures spécifiquement humaines. Méfiance.
Michel Morange, merci beaucoup.